Leçon 1.
1. Gaullisme et socialisme. Dialogue entre deux intellectuels. Il semble que dans les deux ou trois années qui suivirent la mort du général de Gaulle, la politique intérieure française n'ait guère évolué. N'est-ce pas votre avis ?
Je crois que la réalité est plus nuancée. Le général de Gaulle, déjà, était profondément social. Une fraction importante des gaullistes se proclamait de gauche et insistait pour que la classe ouvrière eût plus de part aux richesses nationales. Les salaires furent régulièrement relevés. On créa le SMIG, auquel on assura une croissance annuelle. Le principe de la participation des travailleurs aux bénéfices de l'entreprise fut posé par le général de Gaulle.
Seulement, ces mesures gardaient encore un caractère paternaliste. Elles étaient le fait du chef de l'État, à qui les travailleurs ne refusaient pas toujours leur confiance. Il eût fallu laisser aux partis politiques plus de responsabilités.
Mais la majorité des Français paraissait s'accommoder de cette situation.
Jusqu'en mai 1968, où la révolte explosa parmi la jeunesse étudiante et ouvrière, s'exprimant par des barricades et des heurts violents avec la police. Et depuis ce mois historique, quelque chose a changé dans l'état politique et social de la France.
De leur côté, les églises catholiques et protestantes ont pris des positions résolument évangéliques, où se marque le souci des pauvres, des opprimés, des travailleurs immigrés, de la paix internationale. Les partis de gauche, enfin, radicaux, socialistes, communistes, ont rédigé un programme commun qui tend à la socialisation de la France.
Alors, il est possible que, sous une forme ou une autre, cette socialisation ait lieu.
Oui, et le patronat s'y résigne. Le président du CNPF a fait à ce sujet des déclarations significatives, admettant que la sécurité de l'emploi doit être la préoccupation majeure du gouvernement.
2. Les goûts littéraires de Marx. Marx ne permettait à personne de mettre de l'ordre, ou plutôt du désordre, dans ses livres et ses papiers. En réalité, le désordre n'était qu'apparent. Tout était bien à sa place. Il trouvait toujours sans difficulté le livre ou le cahier dont il avait besoin. Même au cours d'une conversation, il s'interrompait souvent pour montrer dans le livre même la citation qu'il venait de faire ou le chiffre qu'il venait d'indiquer. Il ne faisait qu'un avec cabinet de travail, dont les livres et les papiers lui obéissaient comme s'ils eussent été ses propres membres.
Ces livres lui servaient d'instrument de travail, au lieu d'être des objets de luxe. « Ce sont mes esclaves, disait-il, et ils doivent me servir comme je l'entends. » Il les maltraitait sans se soucier de leur format, de leur couverture, de la beauté du papier ou de l'impression, pliait les coins, couvrait les marges de coups de crayon et soulignait les passages historiques. Il n'y inscrivait pas de notes, mais seulement des points d'exclamation ou d'interrogation quand il arrivait qu'un auteur passât la mesure. Le système dont il se servait pour souligner lui permettait de retrouver très facilement le passage cherché. Il avait l'habitude de relire, après des années, ses cahiers de notes et les passages soulignés dans ses livres pour les bien conserver dans sa mémoire, qui était remarquable. Il l'avait exercé dès sa jeunesse, selon le conseil de Hegel, en apprenant par cœur des vers écrits dans des langues qu'il ignorait.
Il connaissait par cœur Henri, Heine et Cotte, qu'il citait souvent dans sa conversation. Il lisait les poètes de toutes les littératures européennes. Tous les ans, il relisait Eschyle dans le texte original. Il considérait Eschyle et Shakespeare comme les deux plus grands génies dramatiques de tous les temps. Il avait étudié de façon approfondie Shakespeare, pour lequel il professait une admiration sans bornes. Il en connaissait tous les personnages sans exception. Toute la famille Marx professait une sorte de culte pour le grand dramaturge anglais. Ses trois filles le connaissaient par cœur. Après 1848, voulant se perfectionner dans la connaissance de la langue anglaise, qu'il lisait déjà couramment, il rechercha et classa toutes les expressions particulières à Shakespeare.
Marx était, comme Darwin, grand liseur de romans. Ses romanciers préférés étaient Cervantes et Balzac. Il voyait dans Don Quichotte l'épopée de la chevalerie montante, dont les vertus allaient devenir dans le monde bourgeois naissant un objet de moquerie et de ridicule. Il avait une telle admiration pour Balzac qu'il se proposait d'écrire un ouvrage critique sur la comédie humaine dès qu'il aurait terminé son œuvre économique. Balzac ne fut pas seulement l'historien de la société de son temps, mais aussi le créateur de types prophétiques qui, à l'époque de Louis-Philippe, n'existaient qu'à l'état embryonnaire et ne se développaient complètement qu'après sa mort sous Napoléon III.
Marx lisait couramment toutes les langues européennes et en écrivait trois, l'allemand, le français et l'anglais, à l'étonnement de ceux qui possédaient ces langues. Une langue étrangère est une arme dans la lutte pour l'existence, avait-il l'habitude de dire. Il avait pour les langues une grande facilité dont héritèrent ses filles. À l'âge de 50 ans, il entreprit l'étude du russe, et quoique cette langue n'eût aucun rapport étymologique avec les autres langues modernes qu'il connaissait, il en savait assez au bout de 6 mois pour pouvoir lire dans le texte les poètes et les écrivains russes qu'il aimait le plus. Pushkin, Gogol et Chédrine. Ce qui le détermina à entreprendre l'étude du russe, ce fut le désir de lire les documents réglés par les commissions d'enquête officielles, documents dont le gouvernement du tsar empêchait la divulgation.
La bibliothèque de Marx, qui comptait plus de 1000 volumes, soigneusement rassemblés au cours d'une longue vie consacrée aux recherches scientifiques, ne lui suffisait cependant pas, et c'est pourquoi il fut pendant des années un hôte assidu du British Museum, dont il prisait très fort le catalogue. Ses adversaires eux-mêmes étaient obligés de reconnaître l'étendue et la profondeur de son savoir, non seulement dans son domaine spécial, l'économie politique, mais aussi dans le domaine de l'histoire, de la philosophie et de la littérature universelle.
Quoiqu'il se couchât à 1 heure très avancée de la nuit, il était toujours debout entre 8 et 9 heures du matin. Buvait son café noir, parcourait les journaux et se rendait ensuite dans son cabinet de travail, où il restait jusqu'à 2 ou 3 heures après minuit. Il n'interrompait son travail que pour prendre ses repas et faire le soir une promenade du côté de Hampstead Kelt, quand le temps le permettait. Dans la journée, il dormait 1 heure ou 2 sur son canapé. Pendant sa jeunesse, il lui arrivait fréquemment de consacrer des nuits entières au travail. Le travail était devenu pour lui une passion. Paul Lafargue, Karl Marx, souvenir personnel.
Vocabulaire.
Le gaullisme.
Le socialisme.
La politique intérieure.
Nuancée.
Social, sociaux.
Une fraction.
Un gaulliste.
Se proclamer.
Insister.
Relever.
Assurer.
La participation.
Paternaliste.
Être le fait de quelqu'un.
S'accommoder de quelque chose.
Une révolte.
Une barricade.
Un heurt.
Protestant, protestante.
Les églises catholiques et protestantes.
Résolument.
Évangélique.
Se marquer.
Le souci.
Un opprimé.
Des travailleurs immigrés.
Radical, radicaux.
Communiste.
Rétigé.
Tendre à.
La socialisation.
Sous une forme ou une autre.
Le patronat.
Le CNPF, la Confédération Nationale du Patronat Français.
Significatif, significative.
Admettre.
Majeur.
Littéraire.
Un désordre.
Apparent, apparente.
S'interrompre.
Une citation.
Un cabinet de travail.
Obéir à.
Maltraiter.
Se soucier de.
Un format.
Une couverture.
Une beauté.
Une impression.
Plier.
Une marge.
Un passage.
Une exclamation.
Une mesure.
Se servir de.
Relire.
Ignorer.
Citer.
Un génie.
Dramatique.
Professer.
Sans borne.
Sans exception.
Un dramaturge.
Un culte.
Se perfectionner.
Couramment.
Classé.
Un liseur.
Un romancier.
Une épopée.
Une chevalerie.
Une vertu.
Un ridicule.
Une comédie.
Un créateur.
Prophétique.
Embryonnaire.
Hérité de.
Entreprendre.
Étymologique.
Déterminé.
Une commission.
Une divulgation.
Assidu.
Prisé.
Un catalogue.
Adversaire.
Une étendue.
Une profondeur.
Un savoir.
Universel.
Fréquemment.
Une passion.
On récolte ce qu'on a semé.
Tel qui rit vendredi, dimanche pleura.
Citation. Il n'y a pas de route royale pour la science, et ceux-là seulement ont chance d'arriver à ces sommets lumineux qui ne craignent pas de se fatiguer à gravir ces sentiers escarpés. Karl Marx.
Lecture. Une si jolie petite plage. Messieurs, je crois pouvoir vous donner bientôt la bonne nouvelle que nous attendons tous. Vous connaissez le problème qui nous occupe depuis si longtemps. Je ne suis plus loin, me semble-t-il, de trouver la solution.
C'est monsieur le maire qui parle, monsieur Lorgeau, maire d'Erdeven, en Bretagne, entre Lorient et Vannes. Son discours s'adresse aux conseillers municipaux du village. Depuis 50 ans, toute la côte, de Lorient à la presqu'île de Quiberon, est comprise dans ce qu'on appelle la zone militaire, c'est-à-dire la région qui protège le port militaire de Lorient. La côte elle-même, en conséquence, a été longtemps interdite sur une largeur de 500 mètres. L'administration militaire a ensuite laissé venir les baigneurs, qui devenaient trop nombreux à Carnac et à la Trinité. Elle a laissé s'installer des terrains de camping, mais elle interdit toujours absolument de construire. Le conseil municipal, de nombreuses fois, a écrit au préfet pour protester et demander la liberté pour Erdeven. Le maire et les conseillers ont demandé à présenter eux-mêmes leur requête aux représentants du ministre des Armées. Rien n'y a fait.
Voici, messieurs, continue monsieur le maire. Lorsque j'ai appris par les journaux que monsieur le président de la République était venu se baigner à Erdeven, j'ai eu l'idée de lui écrire. Je ne vous ai rien dit sur le moment parce que, au fond, je trouvais mon idée un peu folle. Mais ma lettre était bien, je vous assure. Une si jolie petite plage, monsieur le président, ne veut pas continuer à être le réservoir d'oxygène des riches plages et stations voisines. Elle veut respirer seule, etc. Eh bien, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai reçu une réponse. La voici. Je ne vous la lis pas tout entière. Il y a pourtant quelques compliments qui me font plaisir. Mon cher maire, pris bonne note de votre requête. Oui, d'accord, on sait ce que ça veut dire. Mais attendez. Oui, il reprend plus loin ma formule. Si jolie petite plage, écoutez ceci. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur et au président du Conseil Général du Morbihan de s'occuper sérieusement de cette affaire avec son collègue des armées. Vraiment, cette fois, je crois que notre projet va se réaliser. Et maintenant, je propose de lever la séance sans délibérer. Nous ne discutons pas. Pas d'avis contraire? J'ai bon espoir, pas vous? Allons lever notre verre à la santé du prochain enfant d'Erdeven. Erdeven, plage.
Vocabulaire.
Un conseiller.
Une presqu'île.
La zone militaire.
Le camping.
Le préfet.
Une requête.
Le réservoir.
Un compliment.
Une formule.
Le conseil général.
Un collègue.
Lever la séance.
Lever le verre à la santé de quelqu'un.